Imaginons un instant, juste pour poser le décor, le scénario suivant. Le PDG d'une multinationale avec des enjeux colossaux, une structure qui brasse des milliards, qui emploie des milliers de personnes, eh bien ce PDG disparaît totalement des radars. L'annonce officielle de la boîte évoque de courtes vacances privées, sauf que 2 mois entiers s'écoulent, 60 jours de silence total, pas une seule apparition publique, pas un seul email interne, rien.
Le vide absolu, quoi.
Exactement. Et soudainement, au beau milieu de la nuit, une série de mémos s'est envoyée depuis son compte. Et là, toute l'équipe de sécurité du siège social est licenciée, les serrures des bureaux sont changées, et le garde du corps personnel de ce PDG fantôme, lui, il reçoit une promotion fulgurante.
C'est radical comme méthode de management.
Bah, c'est très exactement ce qui est en train de se produire en ce moment même. Sauf que ce n'est pas dans une entreprise, mais à l'échelle d'un des États les plus stratégiques d'Afrique centrale, le Cameroun.
Et c'est là que le vernis de la communication officielle craque complètement pour laisser apparaître la mécanique brute du pouvoir. Parce que un vide institutionnel prolongé, ça génère toujours une onde de choc, mais quand ce vide est suivi d'une restructuration paramilitaire et militaire d'une telle envergure, on ne parle plus d'une simple parenthèse estivale, hein.
Non, c'est clair.
On assiste vraiment, en temps réel, à une manœuvre de verrouillage de l'État. C'est fascinant et inquiétant à la fois.
Eh bien, c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui dans cette nouvelle exploration. Je suis ravie de plonger là-dedans avec toi, parce que les sources qu'on a rassemblées sont d'une richesse incroyable. On se base notamment sur un article super fouillé de la journaliste indépendante Félicité Amanière-Avissant, ainsi que sur des dépêches de l'agence Reuters.
Ouais, des données très solides pour le coup.
Et notre mission aujourd'hui, c'est d'observer de l'intérieur cette réorganisation soudaine du haut commandement militaire. Parce que quand un chef d'État de 93 ans, on rappelle qu'il tient les rênes du pays depuis 1982, s'envole le 7 juin pour ce que son cabinet qualifie de, je cite, bref séjour privé en Europe, et qu'au 4 août, il est toujours invisible.
La définition du mot bref en prend un sacré coup.
Ah ça, elle vole en éclats, carrément.
C'est ça. Le lexique utilisé par l'administration, il a une importance capitale ici. En politique, un bref séjour, ça sous-entend une gestion des affaires courantes, un maintien du statu quo, où l'administration tourne ralenti.
Ce qui est normal pour l'été en soi.
Voilà, mais 60 jours, enfin 58 jours exactement selon nos sources, d'absence physique pour un chef de l'État en exercice, qui est d'ailleurs le plus âgé au monde, ça paralyse nécessairement la prise de décision.
Bah oui, les dossiers s'empilent sur le bureau.
Exactement. Les arbitrages diplomatiques sont suspendus. L'absence, en fait, elle devient une entité politique à part entière. Elle pèse sur tout le monde.
Mais attends, juste pour nuancer un peu, l'article de notre source mentionne tout de même que les longs séjours à l'étranger, bah, ce n'est pas une nouveauté absolue dans l'histoire politique de ce dirigeant.
Non, c'est vrai, c'est même une habitude connue.
Du coup, si ces absences ne sont pas si inhabituelles que ça, pourquoi est-ce que celles-ci en particulier provoquent de telles secousses? Est-ce que c'est vraiment la durée qui pose problème ou bien l'opacité totale de la communication gouvernementale? Parce que, pour utiliser un terme moderne, c'est presque un ghosting à l'échelle étatique, non?
Ah, j'aime beaucoup l'image du ghosting d'État. C'est très parlant. En fait, c'est la convergence de plusieurs facteurs. C'est pas seulement une question de géographie. Par le passé, ces séjours prolongés pouvaient être accompagnés de, je sais pas, de réceptions d'ambassadeurs, de photos officielles, des preuves de vie, quoi.
Des signaux pour dire hey, je suis là, je gère.
Exactement. Mais ici, le texte souligne un silence béant. Et dans une architecture étatique très centralisée comme celle-là, le pouvoir suprême, c'est la clé de voûte. Tu retires la clé de voûte sans aucune explication, bah tout l'édifice se met à trembler.
C'est logique.
Et les acteurs politiques, les militaires, les alliés, les adversaires, tout le monde commence à faire des calculs. Et c'est là que la tension monte.
Ce qui nous amène logiquement à observer les symptômes de cette panique. Parce que oui, un silence de 58 jours, c'est pas qu'un souci de relations publiques, c'est un vide opérationnel massif. Et comme la nature a horreur du vide, on voit très bien dans les données qu'on analyse que l'entourage tente de colmater les brèches en urgence.
Et de manière parfois un peu maladroite, il faut le dire.
Complètement. On a l'exemple du ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, qui est obligé de monter au créneau sur Radio France Internationale. Et qu'est-ce qu'il fait, hein? Il affirme que le président est vivant et qu'il rentrera, je cite encore, prochainement.
Prochainement.
Mais le détail qui tue, c'est l'absence de date. Une promesse sans échéance au niveau de l'État, ça sonne presque comme un aveu d'impuissance.
Et c'est une promesse qui ne suffit visiblement pas à calmer les inquiétudes, même à l'intérieur de son propre camp, hein. Les données rapportées par Reuters à ce sujet sont vraiment révélatrices. En plein mois de juillet, le RDPC, donc le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, a convoqué une réunion inhabituelle de ses principaux dirigeants.
Pas pour discuter de l'organisation de la kermesse de la rentrée, hein.
Ah non, pas vraiment, non.
Ça sent la gestion de crise interne à plein nez.
C'est un peu comme une famille qui convoquerait un conseil exceptionnel parce que le patriarche ne donne plus aucune nouvelle, pendant que le porte-parole de la famille répète en boucle à la télé que tout va bien. Ça montre que la demande de transparence, elle ne vient pas juste des opposants ou de la presse, elle émane de l'intérieur même de la maison.
C'est une excellente analyse. Le parti au pouvoir, faut bien comprendre que c'est la colonne vertébrale civile du régime. Si ses cadres supérieurs exigent une réunion de crise, c'est que le risque de fragmentation est réel.
De guerre des clans, en gros. Absolument. Dans tout système politique fortement incarné par une seule figure, si le leader disparaît temporairement, ça ouvre grand la porte aux guerres de succession. Il faut donc rassurer les troupes, imposer une discipline de fer et surtout étouffer toute velléité de dissidence interne avant qu'elle ne fuite dans la presse.
C'est le système de l'homme mort dans les trains, tu sais.
Oui, très bonne analogie.
Tant que le conducteur appuie sur la pédale, le train roule. S'il relâche la pression, par malaise ou absence, le système déclenche un freinage d'urgence automatique pour éviter le déraillement.
Et ici, le freinage d'urgence, il a pris la forme d'un remaniement militaire cataclysmique.
Et voilà où ça devient vraiment, mais alors vraiment intéressant. Car c'est au moment précis où cette pression interne culmine que le silence est rompu. Le 3 août, non pas par une apparition télévisée rassurante, mais par une série de décrets présidentiels.
Et la nature de ces décrets, elle balaye toute notion de petite routine administrative, hein. On est sur une refonte quasi totale du maillage sécuritaire du pays.
Les chiffres donnent le vertige. Selon nos sources, on parle du remplacement des commandants de 4 des 5 régions militaires interarmées.
4 sur 5 ?
4 sur 5. C'est 80% du commandement territorial qui saute d'un coup. À cela, tu ajoutes la nomination d'un nouveau patron pour la brigade d'intervention rapide, le fameux BIR, le changement de cadre dans les brigades d'infanterie motorisée et des promotions en cascade.
Comme celle du général Ebaka Hippolyte, oui.
Voilà, promu au rang de général de corps d'armée. Enfin, on est d'accord que remplacer 80% de ses commandants de région, c'est pas un petit ajustement de parcours, c'est un séisme tactique.
Ah mais c'est énorme! Pour bien comprendre l'impact, il faut s'arrêter 2 secondes sur la fonction de ces structures. Les régions militaires interarmées, ce ne sont pas des coquilles vides ou des postes honorifiques.
Loin de là.
Leurs commandants ont la main sur les mouvements de troupes locaux, sur le renseignement territorial, sur les arsenaux. Remplacer ces hommes-là, d'un coup, c'est s'assurer que le contrôle opérationnel sur le terrain est confié à des figures dont la loyauté vient tout juste d'être évaluée.
Et validée, pour faire face à la période de turbulence actuelle.
On place ses pions de confiance, en gros.
Exactement. Et quant à la brigade d'intervention rapide, le BIR, alors là, c'est encore plus stratégique. Justement, parlons-en du BIR. Parce que dans les faits, ce n'est pas juste une unité d'infanterie régulière de plus. L'article insiste bien là-dessus.
Non, c'est souvent perçu comme une armée dans l'armée. C'est une force d'élite, ils sont très bien équipés, extrêmement bien entraînés, ils ont des budgets substantiels et surtout, ils rendent compte presque directement au sommet de l'État.
Pas à la hiérarchie classique de l'armée, donc.
Beaucoup moins, oui. Historiquement, dans ce type d'architecture étatique, ces forces spéciales parallèles, elles sont conçues pour servir de contrepoids à l'armée régulière. Le but, c'est d'empêcher qu'un général classique de l'armée de terre ne puisse rassembler trop de puissance et tenter un coup de force.
Donc, changer le commandement du BIR en pleine crise d'absence présidentielle.
C'est redéfinir l'équilibre de la seule force capable d'intervenir massivement et rapidement dans le pays. C'est le verrouillage ultime.
Mais c'est là que je bloque un peu en lisant ces documents, en fait. On a, d'un côté, un dirigeant de 93 ans dont personne n'a vu le visage ni entendu la voix depuis 60 jours. Et de l'autre, on a une restructuration chirurgicale hyper précise de toute l'architecture de défense qui lui assure une loyauté absolue.
Le contraste est saisissant, c'est sûr.
Mais du coup, comment peut-on être certain que c'est bien lui qui a piloté ces deux crétas ? Est-ce qu'on ne pourrait pas être face à un scénario où le cercle, très restreint, ceux qui ont physiquement accès au bureau présidentiel, utilisent sa signature institutionnelle pour placer leurs propres alliés et neutraliser des rivaux militaires avant une éventuelle transition ?
C'est la question centrale. En sciences politiques, c'est ce qu'on appelle le dilemme de la vacance du pouvoir. Quand tu n'as pas de preuves physiques formelles, la mécanique institutionnelle continue de tourner grâce à ce qu'on appelle la signature.
Le tampon officiel, quoi.
Voilà. Officiellement, ces décrets du 3 août, ils portent le sceau du chef de l'État. Mais que ce soit une décision prise directement par lui depuis l'Europe ou bien l'action concertée de son premier cercle sécuritaire agissant en son nom, le résultat sur le terrain, il est exactement le même.
C'est-à-dire ?
C'est une manœuvre de coup-proofing.
Un verrouillage anti-coup d'État.
Exactement. On s'assure que quiconque tient les armes lourdes dans le pays est un obligé direct du pouvoir en place.
Et ce concept de coup-proofing, il résonne de manière encore plus forte quand on regarde la décision la plus symbolique de ce remaniement. Parce que oui, ils ont réorganisé la périphérie, les régions, tout ça. Mais le centre névralgique du pouvoir, là où la protection est la plus intime, il a aussi reçu un signal très clair. Le bouclier ultime, en fait.
Tu fais référence à la garde présidentielle.
Absolument. Le commandant de cette unité, qui était colonel jusque-là, est soudainement promu général de brigade par ces mêmes décrets du 3 août. Et nos sources rappellent spécifiquement la mission de cette force. C'est pas de surveiller les frontières, sa charge exclusive, c'est la protection physique du chef de l'État, de sa famille et la sécurisation des institutions et des résidences officielles dans la capitale.
Et élever le patron de la garde présidentielle au grade de général en ce moment ultra précis, c'est un acte extrêmement lourd de sens.
Bah oui, on récompense le gardien du temple au moment où le temple semble vide.
C'est ça. Quand le centre de gravité politique, le corps physique du président, est absent de la capitale, les bâtiments officiels deviennent vulnérables. En accordant cette promotion, on consolide un lien de loyauté directe. On garantit que l'homme qui détient les clés physiques des résidences du pouvoir n'a aucun, mais alors aucun intérêt à laisser s'installer le chaos.
Ou à soutenir un mouvement séditieux, c'est fascinant comme paradoxe quand on y pense. L'État donne l'impression de maîtriser absolument chaque échelon de sa sécurité avec ses décrets, mais dans le même temps, devoir agir de la sorte, en urgence depuis l'étranger, ça trahit une certaine fébrilité.
Une grande fébrilité même.
Si tout allait parfaitement bien, pourquoi changer toutes les serrures de la maison d'un coup ?
L'incertitude, c'est le plus grand ennemi de la stabilité. Mais là, je pense qu'il faut absolument introduire une lecture alternative de la situation parce qu'elle est très présente dans nos sources. Et on se doit de garder notre impartialité dans cette exploration.
Tout à fait. La journaliste Félicité Amanyaya Ravincent met d'ailleurs en garde contre les conclusions hâtives.
Voilà. Si la lecture politique d'un verrouillage lié à l'absence est évidente, il existe une grille d'analyse purement opérationnelle qu'on ne peut pas ignorer. Le pays n'évolue pas du tout dans un vide géopolitique serein.
C'est vrai. Enlevons nos casquettes de détective politique une seconde et regardons la carte. Le Cameroun fait face à des défis sécuritaires énormes, avec des lignes de faille très violentes.
La réalité du terrain est implacable. Les sources détaillent deux fronts sécuritaires majeurs. D'une part, on a la menace terroriste de Boko Haram dans la région de l'extrême nord, qui est toujours active et qui nécessite des opérations militaires constantes.
Et très meurtrières.
Très meurtrières, oui. Et d'autre part, il y a le conflit profond dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, où l'armée régulière fait face à des groupes séparatistes armés depuis des années. À cela, on ajoute des défis économiques et sociaux considérables.
Donc, si on suit strictement cette logique militaire et pour se faire l'avocat du diable, on ne remplace pas ces généraux parce qu'on a peur d'un coup d'État dans les capitales. On les remplace tout simplement parce que les troupes sur le terrain sont épuisées.
C'est une hypothèse très crédible.
Engagée sur de multiples fronts sur la longue durée. L'usure du commandement, c'est un phénomène réel.
Donc, d'un point de vue purement factuel, un tel remaniement massif peut tout à fait être justifié officiellement par le besoin de redonner de l'élan aux opérations.
Ce qui est une explication tout à fait légitime pour la sécurité nationale.
C'est pour ça que nos sources attellent à observer une grande prudence. Sans explication détaillée de la présidence, affirmer que ces décrets ne sont motivés que par une paranoïa de succession, ce serait méthodologiquement incorrect. Il faut garder cette objectivité.
Mais le problème, au final, ça reste le timing.
Ah, le timing.
C'était prévu de longue date sur les calendriers de l'état-major. Le simple fait qu'elle soit signée et annoncée au beau milieu d'une absence inexpliquée de 58 jours, ça vient complètement polluer la lecture opérationnelle. La forme absorbe le fond.
C'est inévitable.
Pour le public ou pour les observateurs internationaux, on ne voit plus le remaniement militaire pour lutter contre le terrorisme. On ne voit que l'acte politique d'un pouvoir qui se barricade.
Et c'est là toute la complexité de l'ingénierie étatique. Une seule signature présidentielle doit, au même instant, répondre à des défis géopolitiques vitaux aux frontières et consolider la structure interne du régime face aux doutes grandissants à la capitale.
Ça fait beaucoup pour une seule signature envoyée depuis l'étranger.
Ces deux réalités, la sécurité nationale et la survie politique, elles ne s'annulent pas, elles se superposent Et c'est ça qui crée ce climat de très haute tension institutionnelle.
Et en explorant toutes ces dynamiques, franchement, on réalise pourquoi l'observation de ces manœuvres est indispensable. Et ce, même pour quiconque nous écoute et n'est pas un spécialiste de l'Afrique centrale.
C'est clair.
C'est une véritable leçon d'ingénierie étatique. Observer cette situation, ça nous apprend comment lire entre les lignes des communications officielles. On a vu comment une simple étiquette de « bref séjour privé » peut, avec le temps, se transformer en crise existentielle pour un gouvernement.
Et comment l'architecture d'un État se protège quand sa figure centrale n'est pas là.
De 93 ans, muet depuis 2 mois, qui réussit à remodeler toute la structure de défense de son pays à distance.
Et si on prend un peu de recul sur l'ensemble de ces faits, pour conclure, on se heurte à une réflexion presque systémique. Je trouve ça vertigineux de se dire qu'on a sous les yeux un appareil étatique complexe, capable d'exécuter des mutations gigantesques, de repositionner ses forces spéciales, d'orchestrer la protection de sa propre capitale.
Tout ça par email, presque.
Le tout déclenché par un processus bureaucratique dont le leader physique est invisible. Ça pose vraiment la question de l'autonomie de la machine étatique.
Le fameux concept de VETA en pilote automatique.
Précisément. C'est la pensée que j'aimerais qu'on garde en tête aujourd'hui. À quel moment précis la structure bureaucratique, l'administration militaire et le cercle très fermé autour du pouvoir transcendent-ils la nécessité même de la présence physique de leur figure dirigeante et institute ?
C'est une excellente question.
Jusqu'où un État peut-il continuer à fonctionner en mode pilote automatique, dirigé à distance, à déplacer des armées et à verrouiller son autorité avant que la réalité institutionnelle et humaine ne rattrape le symbole politique ?
C'est une réflexion saisissante à garder en tête. Pendant combien de temps la machine peut-elle continuer d'obéir aux décrets de restructuration envoyés à minuit avant que quelqu'un n'exige de voir le grand patron en chair et en os ?
La survie même du système dépendra de cette réponse.
Exactement. Et la réponse se trouvera dans les semaines à venir. Voilà qui clôture notre exploration approfondie de ces sources pour aujourd'hui. C'était l'art de décrypter le vacarme assourdissant qui se cache parfois derrière le plus total des silences. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'information.